notre cœur, toute notre énergie. Et parfois, c'est tellement pas le cas qu'on peut se sentir un peu, peut-être hypocrite même, à chanter ces chants. Et je me disais que c'est peut-être que, en fait, nous, nous changeons, mais Dieu, lui, ne change pas. Et dans ces moments où ces chants ne nous rejoignent pas dans nos sentiments, je pense qu'on peut les vivre comme des proclamations. Voilà, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je vis, mais c'est vrai. Et je veux m'approprier ces paroles, je veux aussi les vivre, et donc je les proclame. Mais ce n'était pas du tout l'introduction de ma prédication. Ceci dit, ça la rejoint, parce que je suis sûr que la phrase que je vais vous dire maintenant a été déjà prononcée bien des fois ce matin. C'est probablement la phrase qui a été le plus prononcée ce matin. Vous l'avez peut-être dite vous-même, vous l'avez peut-être entendue. Il y a de bonnes chances que ça soit le cas. Cette phrase, c'est « Ça va, toi ? Ça va ?» Et la réponse à cette question, c'est « Oui, oui, ça va. Ça va bien, merci. T'as passé une bonne semaine ? Oui, ça va. » Et je suis ici pour vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais ce matin, en plus de le savoir, on va le dire, on va l'affirmer. Il est possible qu'en fait, cette personne qui vous a répondu ne va pas bien du tout. Ne va pas bien du tout. Il est possible qu'elle soit dans une lutte que vous ne pouvez même pas imaginer. Il est possible qu'elle se batte chaque jour pour trouver une raison de continuer à vivre. C'est possible. Et la première raison pour laquelle nous disons que nous allons bien même quand ça n'est pas le cas, c'est qu'au fond, nous savons bien que cette question, elle relève de la convention sociale. En réalité, les personnes qui veulent vraiment savoir si nous allons bien, je pense, se comptent sur les doigts d'une main, peut-être même sur les doigts d'un doigt, et parfois ce doigt, c'est votre psy. Mais il y a une deuxième raison qui est peut-être spécifique à l'Église, peut-être un facteur aggravant, ce qui a un côté triste, c'est que, alors c'est pas de sa faute, hein, mais l'apôtre Paul nous dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux ». Et puis le pasteur nous dit « Il y a de la liberté en Christ ». Et ces exhortations qui sont justes, qui sont vraies, qui sont là pour nous encourager, résonnent parfois dans nos cœurs plutôt comme une condamnation. Ben parce que nous, en fait, on n'y arrive pas, quoi. Parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui peut être perçu comme un standard biblique de solidité dans la foi, de joie dans le Seigneur, de liberté en Christ. Alors, s'il y a bien un endroit où on ne va pas montrer nos luttes, et encore moins nos échecs, bien sûr, c'est bien ici, c'est bien à l'Église, n'est-ce pas ? Toi qui luttes, c'est à toi que le Seigneur s'adresse ce matin. À toi qui ploie sous le fardeau de ta propre vie. À toi qui cherche en Dieu des réponses, et qui, bien souvent, ne trouve que davantage de questions, c'est à toi que le Seigneur s'adresse ce matin. On va aborder un texte qui nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Et Jacob fait partie du peuple de Dieu. Il fait partie du peuple de Dieu. Il est le fils d'Isaac, qui était lui-même le fils d'Abraham. Et pour autant, cet homme, il est loin d'avoir eu une vie toute droite, toute tracée, impeccable. C'est même plutôt tout le contraire. Il s'est cherché beaucoup. Il a traîné derrière lui des casseroles pendant des années. Et en se cherchant, il a emprunté des chemins erronés. Il s'est planté à plusieurs reprises. Il a causé du tort autour de lui. Et à cause de tout ça, à la fois de ses expériences, de choses qu'il a vécues, et aussi de mauvaises décisions qu'il a prises, sa vie s'est singulièrement compliquée. Et d'ailleurs, au moment où on prend le texte qu'on va lire bientôt, Jacob est en train de s'enfuir. Il s'enfuit avec sa famille de chez son oncle Laban, qu'il a littéralement exploité pendant 14 ans. Et s'il s'enfuit, c'est pour retourner chez lui où son frère l'attend. Alors on peut se dire, ah ben c'est chouette, il est sympa le frère. Sauf que son frère l'attend de pied ferme, parce que Jacob a de bonnes raisons que son frère veuille le tuer. Et donc, c'est dans ce contexte extrême, en fait, dans cette vie chaotique, compliquée, qui s'est en tout cas compliquée, qu'il va vivre quelque chose de tout à fait singulier avec le Seigneur. C'est un texte, je dirais, étonnant, déroutant, et je ne prétends pas avoir tout compris à ce texte, parce qu'il a quelque chose de mystérieux, vous le verrez. Ce texte, on le trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, et je vais le lire dans la Bible en français courant. Genèse, chapitre 32. Alors, Genèse, c'est facile, c'est le premier livre de la Bible, dans les premières pages. Chapitre 32, et je vais lire les versets 23 à 32. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire qu'il avait vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu ?»« Jacob, » répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob demanda, « Dis-moi donc quel est ton nom ?»« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» répondit-il. « La même Il fit ses adieux à Jacob. Celui-ci déclara, « J'ai vu Dieu face à face et je suis encore en vie. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Penuel, ce qui veut dire « face de Dieu ». Quand le soleil se leva, Jacob passa le gué de Penuel. Il boitait à cause de sa hanche. Seigneur, à nouveau, nous voulons te remercier pour ta parole qui est lumière, qui est vie. Et nous te remercions également parce que tu dis qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Et c'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Alors, fais ton œuvre en nous. Amen. Jacob, donc, fuit de chez son oncle avec sa famille. Et dans cette fuite, on le voit, il ferme la marche, il fait passer sa famille en premier, il leur fait traverser le gué, le torrent, et voilà donc que le temps d'une nuit, il se retrouve seul. Et dans cette nuit-là, il va être amené à lutter. Il va être amené à lutter comme jamais, toute la nuit, jusqu'à l'aurore, jusqu'à l'aube. Et la personne contre laquelle il va lutter, ce n'est pas un brigand de grand chemin qui cherche à le dépouiller. Ça n'est pas Satan qui viendrait le tenter. Non, ce quelqu'un, nous dit le texte, c'est Dieu. Ou c'est l'ange de l'Éternel. Mais en tout cas, c'est d'une certaine manière, c'est Dieu qui vient lutter avec Jacob. Et c'est avec Dieu que Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, va lutter. Parce qu'au fond, c'est avec Dieu que Jacob a un problème. Et je me demande si on peut l'assumer, ça. Est-ce qu'on peut assumer que parfois, en fait, c'est avec Dieu qu'on a un problème? Ou est-ce que c'est tabou dans l'Église? En tout cas, ce n'est pas tabou dans la Bible. Si vous voulez, chez vous, lisez le psaume 44, vous m'en direz des nouvelles. Pour l'heure, on va voir ce qu'on peut apprendre de cette lutte. La première chose qu'on peut apprendre, je crois, et on l'a dit ce matin d'ailleurs, c'est que cette lutte, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident au premier abord, mais au fond, qui lutte avec qui ici? Qui lutte avec qui? Alors Jacob lutte avec Dieu, c'est vrai, c'est entièrement vrai, il se bat, il se débat, il lâche rien. Mais il nous est dit aussi que quelqu'un, enfin il nous est dit surtout que quelqu'un lutta avec Jacob jusqu'à l'aurore, et non pas que Jacob lutta avec quelqu'un jusqu'à l'aurore. Comme si l'initiative de la lutte venait non pas de Jacob, mais de Dieu. De Dieu qui vient chercher Jacob, qui vient en quelque sorte le provoquer. « peut-être tu es en lutte avec Dieu. Et je suggère ceci, est-ce que tu as déjà pensé que ta lutte avec Dieu, peut-être qu'en fait c'est lui qui l'a initiée, peut-être que c'est lui qui est venu te titiller. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ferait une chose pareille? Eh bien, je suggère que c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il y a des moments dans notre vie où Dieu vient nous secouer. Il vient nous secouer. Il vient lutter avec nous pour nous faire bouger de nos positions parce que nos positions sont mauvaises. Et donc, il vient et il nous bouscule. Et cette lutte-là, elle est âpre, elle est dure. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il nous veut du mal, c'est tout le contraire, c'est parce qu'il nous aime. Et je voudrais qu'on lise dans l'Épître aux Hébreux, une partie du chapitre 12. Et cette fois-ci, je le lis dans la Nouvelle Bible Second, parce que elle emploie des termes plus rudes que la Bible en français courant, qui a un peu allégé certains termes, non pas qu'elle se trompe en le faisant, mais là, dans la NBS, les termes employés ont gardé leur rugosité du texte original, et c'est intéressant parce que je crois que nos combats ont parfois cette densité-là. Voilà ce qui nous est dit à partir du verset 4 du chapitre 12, je lirai jusqu'au verset 13. Il nous est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il donne des coups de fouet à tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous endurez. Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, c'est que vous n'êtes pas des fils, mais des bâtards. Puisque nous avons tous eu un Père de notre chair qui nous corrigeait et que nous respections, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour que nous vivions? Celui-là en effet nous corrigeait pour peu de temps, comme il lui semblait bon. Celui-ci nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. » C'est intéressant de voir d'ailleurs la différence entre notre Père humain, qui nous corrige pour ce qui lui semble bon. Des fois c'est bien, des fois c'est un peu raté, on est un peu à côté de la plaque. Notre Père céleste nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui flageolent. Préparez pour vos pieds des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne se torde pas davantage, mais plutôt guérisse. Si vous avez donné votre vie à Dieu et que vous êtes en lutte avec lui, ne croyez pas que c'est parce qu'il vous est contraire. Il lutte avec vous parce que vous êtes ses enfants. Il se présente en adversaire, il se présente en résistance, parce qu'au fond, c'est vous qui résistez. Mais en tout cas, vous êtes en relation avec lui, même si c'est une relation compliquée, vous êtes en lutte parce qu'il vous aime et que vous l'aimez. Et s'il lutte avec vous, c'est parce qu'il se préoccupe de vous et veut vous faire avancer. Mais avancer vers quoi? Eh bien, c'est la deuxième chose, je crois, que nous pouvons apprendre de ce texte, c'est que cette lutte vous amène vers qui vous êtes vraiment. C'est curieux de voir qu'il y a des assonances, en tout cas c'est une curiosité de voir ça, qu'il y a des assonances autour du nom de Jacob dans le texte. Alors, je ne vais pas faire celui qui maîtrise l'hébreu, je ne le maîtrise pas, mais je maîtrise les commentaires bibliques, qui me donne de bonnes pistes. Il lutta, ça se dit Yéabek. Alors, si quelqu'un connaît l'hébreu, il va dire non, ça se dit Yéabek. Bon, bref, c'est pas grave sur l'accent, n'est-ce pas? Mais Yéabek, avec Jacob. Jacob, c'est Yaakob, près du torrent de Yabok. Yéabek, Yaakob, Yabok, en fait, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose dans ce texte qui se passe autour du nom de Jacob, et on le voit beaucoup plus clairement par la suite. Comme nous tous, Jacob a reçu un nom. Il a reçu une identité. On le voit en Genèse 25, versets 24 à 26, c'est le texte qui raconte sa naissance, où il nous est dit les jours où Rebecca, donc la femme d'Isaac, devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Alors vous verrez qu'Isaac et Rebecca ont été très originaux dans leur choix de nom. Le premier, il naît tout poilu et il l'appelle le velu. C'est ça que ça veut dire Ésaü, le velu. Le deuxième, il naît dans la foulée et sa main tient le talon de son frère aîné et du coup il l'appelle le talon. C'est ça que veut dire Jacob. Seulement voilà, il se trouve que Jacob, ça ne veut pas seulement dire le talon. Ça veut aussi dire le supplanteur, l'usurpateur. J'aimerais bien savoir combien de fées se sont penchées sur votre berceau à vous. Vous savez, toutes ces personnes qui y vont de leurs commentaires sur votre propre vie, alors sur votre berceau ou plus tard, à l'école, au collège, au lycée, même beaucoup plus tard, peut-être avant-hier, votre patron, votre voisin. Mais ça commence dès tout petit. Oh, mais quel sourire! T'es une sacrée séductrice! Pam, séductrice! T'as l'œil vif comme ton père, tu vas être médecin comme lui, toi. Pan, médecin. Ah, oh, ça babille, mais quelle bavarde. Pan, bavarde. Qu'est-ce que t'es grognon, t'es pas prêt de te faire des amis. Pan, asocial. Et des vies entières sont bâties autour de paroles qui sont posées sur nous comme des, j'ai marqué des étiquettes, c'est plus que ça, comme des marqueurs identitaires, comme des tatouages. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob. Jacob est né en second, il est donc le cadet. Dans la fratrie, c'est Ésaü qui jouit du droit d'aînesse, et donc c'est lui qui doit hériter. Mais Jacob va vivre en Jacob. Le supplanteur va supplanter. Jacob, il est plutôt casanier, son frère est un chasseur. Alors un jour, quand ce dernier rentre complètement affamé d'une partie de chasse, Jacob va lui proposer de faire affaire, vous voyez. Il lui dit, j'ai un bon repas. Il est tout prêt. Prêt à manger. T'as faim ? Ah oui, j'ai faim. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais de m'échanger ce plat de lentilles contre ton droit d'aînesse ? Ésaü est surprenant, il est assez court de vue, je pense, mais en tout cas, entre un droit d'aînesse encore très abstrait, qu'est-ce que c'est un droit d'aînesse ? Ça sert à quoi ce truc-là ? Et un plat de lentilles qu'on lui pose sous les narines, le choix est vite fait. Il n'hésite pas longtemps, le droit d'aînesse, ça ne remplit pas l'estomac. Et voilà comment Jacob se retrouve avec les privilèges du fils aîné alors qu'il est le cadet. Il a supplanté son frère. Et ce n'est pas fini. Quand Isaac devient vieux, il va vouloir bénir son fils Ésaü avant de mourir. Il veut le bénir. Et ce n'est pas rien la bénédiction du père. Ça pose des fondations pour la suite. Ça aide à construire une vie. Et particulièrement à cette époque-là, la parole, on la prenait au sérieux. Je dis ça comme ça. Mais à nouveau, Jacob va vivre en Jacob. Le supplanteur va supplanter. Il va se présenter à la place de son frère devant son père qui est devenu aveugle et tranquillement, il va recevoir la bénédiction et il va à nouveau dépouiller son frère. Alors après, l'histoire de Jacob tourne un peu au vinaigre, mais même là, vous allez voir que c'est intéressant. Il doit s'enfuir parce que Ésaü donc veut le tuer. Et il part chez son oncle Laban, c'est ce que je disais au début, et là il va tomber amoureux d'une des filles de la maison qui s'appelle Rachel. Et comme il est parti de chez lui un peu précipitamment, une main devant et une main derrière, il n'a pas de quoi payer la dot. Alors il négocie avec Laban, il lui propose de travailler 7 ans pour lui en échange de la main de Rachel. Et au bout de 7 ans, le mariage a lieu, il se marie, la mariée est magnifique, bien que complètement voilée. Il est marié, elle enlève son voile, et là, oh, c'est pas Rachel, dis donc, c'est Léa, c'est sa sœur. C'est intéressant, l'arnaqueur vient de se faire arnaquer, le supplanteur vient de se faire supplanter. Il va devoir travailler 7 ans de plus pour se marier avec la femme qu'il aime. Et c'est après tout ça qu'on le retrouve dans le texte qui nous occupe aujourd'hui. Et dans ce texte, on le voit, il lutte avec Dieu. Il lutte avec Dieu. Et je crois vraiment que cette lutte, enfin c'est pas je crois, c'est le texte nous le dit, elle tourne autour de l'identité du nom de Jacob, de son nom. C'est comme si la vie de Jacob était marquée par la tromperie. Elle est marquée par la tromperie. Lui, il trompe, et puis il se fait tromper, il se fait arnaquer, et il sent bien, Jacob, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa vie, mais je crois qu'il n'a pas mis le doigt dessus. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Mais il ne sait pas quel est le problème. Et il va lutter avec Dieu. Il ne l'a pas identifié. Cette nuit, Dieu va venir bousculer et il va dire « Ah, tu viens me chercher, bah, tu vas me trouver » et il ne va pas lâcher l'affaire. Il ne va pas lâcher l'affaire. « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je ne sais pas quel est mon problème, mais je ne vais pas te lâcher tant que tu ne m'auras pas béni. » Il est dans cette lutte-là. Et l'autre demande « Comment t'appelles-tu ? » On arrive au nœud du problème. « Jacob. » L'autre reprend « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. » On ne t'appellera plus le supplanteur, on ne t'appellera plus l'usurpateur, on va t'appeler le lutteur, celui qui a lutté avec Dieu. T'as tenu bon, t'as tenu ferme. Et toi ? Toi, comment est-ce que tu t'appelles ? Quel est ce nom ? Quel est ce nom qui marque ta vie encore aujourd'hui ? Est-ce que tu t'appelles, je sais pas, le nul ? Le colérique, le timide, l'efféminé, le bon à rien, le séducteur, le garçon manqué peut-être, le menteur, l'obsédé, comment tu t'appelles ? Ou comment tu crois que tu t'appelles plus exactement ? Quel est ton nom ? Quelles sont ces paroles qui ont été posées sur toi ? Ou peut-être que tu as posé toi-même sur toi parce que tu as eu 4 échecs, alors tu te dis « je suis le nul », voilà. Et qui, encore aujourd'hui, oriente ta vie sur des chemins de mensonges. Parce que tu as pris ce nom-là comme ton identité et que tu vis en fonction de cette identité qui, en fait, n'est pas la tienne. En tout cas, ce n'est pas celle que Dieu te donne. Et je voudrais qu'on prenne un temps de silence pour répondre en nous-mêmes à cette question, dans le secret de notre cœur, qu'on se pose la question, il y en a peut-être chez qui c'est évident, ça leur a sauté aux oreilles directement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sentent qu'il y a un truc, mais ils n'avaient pas perçu que peut-être il y avait une question d'identité là-dedans. Je voudrais qu'on prenne un temps de silence pour répondre à cette question. Qui est-ce que je dis que je suis ? Qui est-ce que je dis que je suis ? Prenons ce temps et je conclurai par la prière et par la conclusion de cette prédication. Seigneur, tu as entendu tous ces noms que nous avons reçus sur nos vies, que nous avons parfois posés nous-mêmes sur nos vies et que nous avons accueillis comme partie intégrante de notre identité. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir cru que ces noms nous définissaient. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi en agissant conformément à une identité qui ne venait pas de toi, qui n'est pas celle que toi tu poses sur notre vie. Nous reconnaissons que ce faisant, On a donné des droits à l'ennemi sur des pans entiers de notre vie. Seigneur, nous affirmons maintenant que les esprits mauvais associés à ces paroles n'ont plus aucun droit sur nous, aucun droit sur nos vies. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les envoyons au pied de la croix où ils ont été vaincus. Et nous recevons de toi le nom qui correspond à qui nous sommes en toi. À commencer par le beau nom d'enfant de Dieu. Amen. La Bible n'est pas un recueil de contes avec une petite morale à la fin. La Bible nous parle de la vie telle qu'elle est. La Bible ne nous ment pas. Dans la Bible, nous ne découvrons pas des personnages hors du commun, aux vies lisses et sans accrocs devant le Seigneur. Les héros de la foi, ce qu'on appelle les héros de la foi souvent, se trouvent être des gens qui ont eu des vies aussi complexes que les nôtres, qui ont traîné autant de casseroles que nous, qui ont pris des chemins de traverse qu'ils auraient mieux fait de ne pas arpenter. En somme, dans la Bible, on trouve des gens qui, lorsqu'on leur dit « ça va, ça va », ils nous répondent « je te comprends, parce que moi aussi ça va ». Et ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est pas qu'il y ait des gens au caractère et aux actes absolument exemplaires, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ce qui est merveilleux, c'est ce que Dieu fait avec cette bande de misérables qui nous ressemble tellement et de bien des aspects. Et ce que Dieu a fait avec Jacob, il le fait avec toi maintenant. Il le fait avec toi maintenant. Et je voudrais te suggérer ceci, je voudrais te suggérer d'ancrer ça dans le réel, dans le ici et maintenant. On a une petite équipe de prière qui se tient à disposition à la sortie de chaque culte. Je te propose d'aller déposer auprès du Seigneur dans la prière avec eux ce nom qui t'est venu en tête tout à l'heure et qui n'a plus rien à faire avec toi parce que c'est un nom de mensonge. Et c'est bon de le faire avec l'équipe de prière parce que c'est une manière de faire passer à la lumière ce qui était caché dans les ténèbres. Et ça, c'est très désarmant pour l'ennemi parce que ce qui est dans les ténèbres, c'est pour lui, mais ce qui est dans la lumière, c'est pour Dieu. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. On va prendre un chant. Ce chant dit « Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. » Par notre nom. Par notre vrai nom. Tu nous appelles par notre nom. Je vous invite à vous lever